Chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver pour cette seconde étape dans l'approche d'un sujet dont nous disions il y a 2 semaines qu'il nous concerne tous. Nous ne pouvons pas être apathiques, insensibles à cette question parce que nous pouvons dire pour chacun d'entre nous que même notre avenir sera inévitablement marqué ici et là, avec plus ou moins d'intensité, par toutes sortes de formes de souffrance. Nous allons, en introduction à cette première réunion, lire 3 passages dans la Bible. Le premier dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, et dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, 5e livre de Moïse. Deutéronome, au chapitre 8. Chapitre 8, alors que toute une génération d'Israélites est maintenant décédée à cause de son incrédulité. Et derrière elle, une jeune génération vient de grandir au désert, dans des conditions difficiles, et s'apprête à passer de l'autre côté du Jourdain pour enfin connaître ce pays, cette terre où coule le lait et le miel. Et donc, de la part de Dieu, Moïse va dire un certain nombre de choses extrêmement importantes à cette nouvelle génération, notamment dans ce chapitre 8, où nous lisons tout d'abord les versets 2 à 5. Chapitre 8, donc, versets 2 à 5. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Un peu plus bas, verset 14. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Nous allons maintenant dans la deuxième partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, et vers la fin du Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, donc vers la fin du Nouveau Testament, après l'épître aux Hébreux, Jacques, qu'on surnommait le Juste, parce qu'il y a plusieurs Jacques, et qui est donc le demi-frère du Seigneur Jésus, c'est-à-dire issu de l'union légitime entre Marie et Joseph. Et là donc, dans Jacques, au chapitre 1er, Nous avons au verset 2 à 4 un texte important qui, curieusement d'ailleurs, arrive d'emblée dans cet épître extrêmement pratique. Où Jacques, de la part de Dieu, dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves variées, multicolores, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve, l'examen de passage, le test de votre foi produit la patience, ou plus précisément encore, mais c'est dans la même famille, la persévérance, la constance, l'endurance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, dans le sens de mûr, adulte, et accompli, c'est-à-dire bien équipé, qu'il ne vous manque rien dans l'équipement du disciple de Christ, donc sans faillir en rien. Et puis nous passons à un dernier texte dans l'épître qui suit immédiatement, la première épître de Pierre, donc le disciple devenu apôtre, Simon-Pierre, le Lucky Luke dans la bande des douze, celui dont la parole courait plus vite que la pensée, et que Dieu a merveilleusement transformé. Et donc dans 1 Pierre aussi, très rapidement, verset 3 déjà, nous lisons, 1 Pierre chapitre 1er verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a fait naître de nouveau, ou naître d'en haut, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves variées. Nous avons déjà vu ce terme dans la lecture précédente, afin que la mise à l'épreuve, l'examen de passage, le test de votre foi, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Si j'ai bien compris, les passages que nous avons lus, il y a ce que nous appellerons ce soir un couac. Il y a un couac. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il figure en toutes lettres dans le troisième texte que nous venons de lire. Verset 6. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, c'est là ce qui fait votre joie, quoique. Il y a bien un quoique. Et c'est vrai qu'il y a un quoique. Il y a d'un côté la joie. Et vous avez remarqué que la joie est commune aux deux passages qui pratiquement inaugurent deux épîtres du Nouveau Testament, l'épître de Jacques, la première épître de Pierre, qui se succèdent. C'est la joie qui apparaît. Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Et encore, en français, la structure de la langue nécessite de construire de cette manière. Vous auriez le texte original du Nouveau Testament sous les yeux, le texte grec, avec lequel on peut faire beaucoup d'autres choses, qui est beaucoup plus souple que la langue française, et vous remarqueriez que le verset 2 ne commence pas par « mes frères », il ne commence pas par « regarder », mais il commence par « joie complète ». C'est-à-dire que, conduit par le Saint-Esprit, l'apôtre Jacques a rejeté en tête de phrase la pensée la plus forte du passage. Il a voulu montrer au lecteur que ce qui devait d'abord retenir de la part de Dieu l'attention du lecteur, c'était l'expression « joie complète ». Alors, dans 1 Pierre 1, 6, nous avons au verset 6 donc une expression extrêmement forte. Nous pourrions la traduire de manière différente parce que ce n'est pas un mot classique ici. Vous avez un mot qui revient fréquemment dans le Nouveau Testament, dans le texte original qui est traduit par joie, mais ici ce n'est pas ce mot-là. C'est un mot beaucoup plus fort et qui fait que on pourrait traduire « c'est là ce qui vous fait jubiler, ce qui vous fait tressaillir d'allégresse, c'est là ce qui vous fait exulter ». Vous avez la même expression d'ailleurs dans le verset 8, quand il est question d'une joie merveilleuse et glorieuse, et c'est tout à fait de la même veine. C'est pas la joie, mais c'est une joie qui pétille. Une joie extraordinaire, une joie absolument débordante. Vous jubilez d'une joie inexprimable. Vous tressaillez d'allégresse. Mais au même moment, vous connaissez l'épreuve. Vous connaissez la souffrance. Le premier texte de l'épître de Jacques nous invite à vivre dans la plénitude de la joie au sein de l'épreuve. Le second texte nous indique que les croyants dispersés dans essentiellement le nord de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, expérimentaient dans une situation difficile, ce tressaillement d'allégresse. Vous jubilez d'une joie inexprimable, pourquoi ? Eh bien, à cause de ce si grand salut. C'est par là que nous avons terminé il y a 2 semaines. En disant que la souffrance pouvait être un de ces langages divins, un langage douloureux, un langage plus percutant, qui vous laboure la conscience, une lame qui fend la terre, parfois si rude, si dure, si durcie, de notre cœur, pour que la semence de Dieu qui y est déposée puisse enfin trouver un sol fécond et produire du fruit. Béni soit Dieu qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons rencontré Jésus-Christ. Nous avons vécu une naissance d'en haut, un miracle extraordinaire. Et puis, suit un chapelet extraordinaire de merveilleuses certitudes. Nous sommes sauvés
pour une espérance vivante, non pas pour un espoir. Nous ne vivons pas de doute quant à l'avenir. Nous vivons avec une espérance. Nous savons que, au-delà de cette terre, nous attendent des réalités absolument glorieuses, merveilleuses, qui font que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, dira l'apôtre Paul. Nous reviendrons sur ce texte de l'Épître aux Romains. Et ceci parce que le Christ est vivant, il est ressuscité, et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons été sauvés. Sa mort n'eût servi à rien s'il n'était pas sorti de la tombe. Et notre régénération repose sur ce duo absolument inséparable de la mort de Christ, se substituant à nous, expiant nos fautes en mourant sur la croix, et la résurrection qui signe l'agrément de Dieu. Si Jésus-Christ était resté dans la tombe, c'est que le sacrifice de Christ n'eût pas été suffisant au regard de Dieu. Parce que le sacrifice de Dieu a été suffisant au regard de Dieu, parce que Jésus-Christ est mort sans avoir lui-même péché, il pouvait payer notre dette. Et Jésus-Christ l'a donc ressuscité. D'entre les morts, nous avons un Christ vivant, que nous allons bientôt voir. Un héritage, nous est-il dit, nous est réservé dans les cieux, qui ne subit pas les fluctuations du cours de la bourse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de ne pas avoir besoin d'avoir peur du prochain krach boursier qui, un jour ou l'autre, va arriver. Krach mondial, disent les Écritures. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, c'est le mot utilisé chez les Romains ou les soldats grecs même, quand ils montaient la garde. Dieu monte la garde. Dieu monte la garde. Et bien entendu, il monte la garde, mais nous ne sommes pas des gens passifs. Nous sommes vigilants. Même si Dieu monte la garde, nous ne sommes pas comme dans certaines religions païennes où simplement on est une espèce de médium, on fait le vide. Pas du tout. Il nous est dit que à la fois nous sommes gardés par la puissance de Dieu et par la foi. C'est-à-dire en comptant en permanence, d'instant en instant, sur la force de Dieu, sur la puissance que Dieu a de nous garder jusqu'à ce que le salut qui est encore en espérance soit devenu un salut en chair et en os. Dans ce sens que nos corps, qui souffrent pour le moment, qui vont vers la tombe, nous sommes des morts en puissance au niveau physique, n'est-ce pas? Eh bien, ces corps vont connaître cette transformation profonde, phénoménale, incompréhensible, ce phénomène de la résurrection, et notre salut ne sera plus un salut en espérance. Nous serons en face de notre Dieu, dans la présence de notre Sauveur, dans des corps transformés, et nous vivrons une éternité absolument extraordinaire. Alors, vous rendez compte, on peut comprendre très bien pourquoi l'apôtre Pierre, après avoir énuméré très rapidement la richesse, la beauté de ce salut, ne peut que dire, bien, eh oui, on peut comprendre que avec ça, vous vous exultiez, vous soyez heureux, c'est quelque chose de merveilleux, c'est extraordinaire, on ne peut pas faire autrement que de se réjouir d'un tel héritage. Quoique. Quoique, parce que vous êtes affligés. Il y a à la fois dans votre vie de la joie et de la tristesse. Parce que c'est un des paradoxes de la vie chrétienne. De pouvoir vivre une vraie joie tout en connaissant la tristesse de l'épreuve. Ça, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Vous vous réjouissez, mais en même temps, vous êtes affligé. Vous connaissez le chagrin. Vous connaissez les afflictions. Et ce paradoxe, ce contraste apparent, nous ne le retrouvons pas que dans l'épître de Jacques et la première épître de Pierre. Nous allons le retrouver à plusieurs reprises, dans l'expérience de l'apôtre Paul, par exemple, qui écrira dans 2 Corinthiens 6:10, « Comme attristés, et nous sommes
toujours joyeux. Comme attristé, donc pouvant verser des larmes, et pourtant toujours joyeux. Ou encore, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, « Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Au chapitre 8 de la 2e aux Corinthiens, il est question de l'exemple des églises de Macédoine, Philippe de Macédoine, l'épître aux Philippiens, capitale de toute cette région, n'est-ce pas? Et il nous a dit au verset 2 de Corinthiens 8, 2, « À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Il y a donc un premier message. Pour essayer de résoudre cette énigme, pour essayer de comprendre comment il est possible qu'il puisse y avoir dans les Écritures de telles apparentes contradictions. Eh bien, la solution à l'énigme est simplement liée au fait que le disciple de Jésus-Christ puise sa joie ailleurs que dans les circonstances. Là où nous sommes tentés en permanence, et où le monde le fait, n'est-ce pas, d'associer l'état d'âme aux circonstances traversées, Dieu nous dit dans la vie chrétienne, il n'en est pas ainsi. Notre joie n'est pas liée d'abord aux circonstances. Parce que notre joie, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Elle n'est pas le produit simplement de nos efforts charnels. Nous n'allons pas puiser dans le tréfonds de notre être quelque chose qui pourrait s'appeler la joie. La joie dans les Écritures qui occupe beaucoup de place dans les Écritures. Il y a dans l'ensemble des Écritures au moins 600 à 800 passages qui traitent de la joie. Et notre joie est un miracle. Notre joie est le miracle de la présence de Dieu en nous, la présence de Jésus-Christ en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, qui au moment de notre nouvelle naissance a déposé une semence. Une semence qui demande maintenant à se développer, à germer, à pousser du fruit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, elle est là, la paix. Miracle extraordinaire de Dieu dans ma vie, miracle de la grâce de Dieu dans ma vie. Et je peux comprendre alors cette injonction, cet impératif qui revient si souvent dans l'épître de Paul aux Philippiens, que nous avons évoqué, les Philippiens, alors qu'il était au fond de sa prison à Rome, qu'il vit une situation difficile et qu'il ne peut faire autrement lorsqu'il s'adresse aux Philippiens que de leur dire « Mais réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous toujours !» Mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pendant longtemps, dans l'étude de cette épître aux Philippiens, je me focalisais, je me centrais sur cet impératif. Réjouissez-vous. Il m'interpellait très fort. Et il sautait tellement fort du texte que j'oubliais que ce n'était pas l'essentiel, que cet impératif, réjouissez-vous, était déterminé par la suite. C'est dans le Seigneur qui est important dans l'épître aux Philippiens. Parce que en dehors du Seigneur, il est impossible de se réjouir dans des circonstances aussi sévères que celles que connaissait l'apôtre Paul. Quelqu'un écrit « La joie » que nous offre le Seigneur est comme un fond de mer qui reste calme et paisible
malgré la tempête qui trouble la surface des eaux. Et un autre auteur écrit ceci: désirez-vous connaître une joie débordante et constante? Alors apprenez la vérité de 1 Pierre 1,8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La joie déclenchée par de brusques accès de gaieté relève de l'exaltation pure et peut se comparer à une fleur coupée d'une brève journée d'hiver. Séparée de sa racine, elle se fane avant le prochain coucher de soleil. La joie de la foi est le fruit et la floraison perpétuelle dont est couvert l'arbre vivant. Cette joie est aussi celle de la plante enracinée dans un jardin bien arrosé. Et si l'apôtre Pierre écrit de la part de Dieu de cette manière à ses croyants dispersés dans une région qui va traverser des heures et des années très difficiles, la persécution systématique n'est pas encore à l'œuvre. En Turquie du Nord, à l'heure où Pierre écrit cette lettre, elle sévit déjà à Rome. Les croyants dans la capitale sont terriblement persécutés. Près de 500 d'entre eux vont mourir sur très peu de temps à cause de la folie de Néron. Mais en Asie mineure, donc en Turquie du Nord, ça se prépare. Et si Pierre écrit à ses croyants de cette manière, c'est en même temps parce qu'il voit comment la situation évolue. Et il sait que, inévitablement, cette persécution qui part de la capitale de l'Empire va peu à peu s'étendre par vagues successives pour englober tous les territoires appartenant à l'Empire romain. Et l'apôtre Pierre discerne qu'il y a chez les croyants de Turquie du Nord un malaise à quelque part. Ils sont heureux d'être sauvés. Il leur rappelle la beauté de leur salut, la grandeur de l'évangile. Ça, c'est le grand thème du chapitre 1er. Mais en même temps, il éprouve le besoin de répondre de la part de Dieu à une question qu'il se pose intérieurement. Mais pourquoi est-ce que nous souffrons? Est-ce que c'est chose normale? Est-ce que nos souffrances sont légitimes? Est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie? Parce que ces croyants commencent à avoir de la peine, manifestement, à accepter ce changement dans leur situation. Et l'ennemi essaye de les faire douter. Est-ce que la grâce dans laquelle ils sont est bonne? Et c'est pour cela que, dans la conclusion de la première épître de Pierre au chapitre 5, il le leur dit, n'est-ce pas? Chapitre 5, verset 12, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu dans laquelle vous demeurez ferme est la véritable. Rassurez-vous, vos souffrances sont normales. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas faussement culpabiliser comme si chaque fois que le chrétien souffre, il était coupable à quelque part, comme certains le disent, nous l'avons vu il y a 15 jours. Et donc après cette introduction, l'apôtre Pierre va brosser une succession de tableaux très vivants des différentes sphères dans lesquelles les membres de l'Église de Jésus-Christ en Turquie du Nord étaient en train de se trouver en situation de plus en plus difficile. Alors il va aborder tout d'abord les souffrances au sein de la société en général, de la part des voisins, au milieu des païens, chapitre 2, verset 12, des païens qui calomnient. Il va aborder un peu plus loin, en verset 18 et suivant du chapitre 2, la souffrance du disciple de Christ dans l'exercice de sa profession, dans ses rapports avec son patron. Très intéressant. Et puis un peu plus loin au chapitre 3 et dans les premiers versets, il va aborder le problème de la souffrance d'une femme qui a rencontré Jésus-Christ alors qu'elle était déjà mariée avec un non-croyant et son mari non-croyant ne s'est pas converti en même temps qu'elle. Et donc maintenant, il y a un problème dans ce foyer. L'épée du Seigneur Jésus, comme nous disions il y a 15 jours, est passée par là. Et cette brave sœur en Christ est déboussolée. Elle ne sait plus très bien comment faire, comment réagir quand on a un mari qui n'est pas croyant. Surtout à cette époque où la condition de la femme était une condition extrêmement pénible, difficile. Alors il faut une réponse. De manière à ce qu'elle sache comment, dans sa situation difficile, dans sa situation de souffrance, elle va devoir réagir pour pouvoir éventuellement même gagner son mari à l'évangile de Jésus-Christ. Et puis ça continue ainsi tout au long de ce texte pour aboutir au chapitre 5 à certaines des souffrances qui peuvent être parmi les douloureuses, les plus douloureuses, à savoir les souffrances même que le disciple de Jésus-Christ peut connaître dans sa vie d'église. Toutes sortes de conflits, conflits de génération, conflits d'âge, etc. Ils sont là aussi sous-jacents dans le texte. Cette première épître de Pierre est tellement pratique, est tellement actuelle. Elle colle exactement avec nos besoins d'aujourd'hui, alors que nous sentons le vent de plus en plus bise de l'opposition monter. Qu'il faut nous y préparer et que c'est précisément dans ces mêmes sphères que nous allons les uns et les autres être confrontés avec toutes sortes de situations de souffrance. Alors bien entendu, nous aurions pu passer tout notre week-end jusqu'à demain après-midi à rester dans ce texte. Et nous aurions eu de quoi passer une semaine ensemble à évoquer justement ces souffrances. Mais je ne veux pas y rester. Je ne veux pas y rester pour une raison. C'est que la première épître de Pierre est plus spécialement centrée sur une forme de souffrance. Elle vise les autres formes de souffrance indirectement. Mais la première dimension de souffrance qui est mise en évidence dans la première épître de Pierre, c'est la persécution. Donc ça pourrait faire l'objet d'un seul week-end. Traiter le disciple de Jésus-Christ face à l'annonce de la persécution. Et c'est un thème absolument fantastique. Mais nous ne voulons pas uniquement traiter de cette question, voir la question de la souffrance sur un plan plus général, parce que notre cœur est tellement tortueux que quelqu'un d'entre nous pourrait dire, ah ben, comme moi je ne suis pas encore persécuté, ça ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? Alors on veut étendre pour que nous soyons les uns et les autres vraiment très concernés, bien que nous soyons tous concernés par cette question de l'opposition, des pressions de la persécution, étant donné que de plus en plus, nous allons avoir à prendre des positions courageuses qui non seulement seront incomprises, mais ne seront même plus tolérées par notre entourage, quand on voit ce qui se passe sous nos yeux à l'heure actuelle. Alors à partir de là, il y a quand même dans cette première épître de Pierre une affirmation qui est fortement martelée par le Saint-Esprit pour les disciples de Jésus-Christ de toutes les époques. Simon-Pierre, de la part de Dieu, va dire à ces églises et à nous aujourd'hui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, la souffrance n'est rien d'anormal dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Mieux encore, la souffrance s'inscrit dans les nécessités de la vie chrétienne. La souffrance s'inscrit dans les nécessités de la vie chrétienne. Et là, alors, nous heurtons de front les conceptions concernant la définition du bien, de ce qui est bien, de ce qui est valable dans le monde moderne, et même dans l'Église. Parce que trop souvent dans l'Église, on avance une conception de ce qui est bien, de ce qui est valable, qui est fausse. qui en réalité est emprunté à ce système dominé par la puissance des ténèbres qui s'appelle le monde. Quelqu'un l'a d'ailleurs très bien rendu, écoutez ceci. Nous avons tendance à croire que le bien veut dire confort physique. Si nous sommes en bonne santé, si la souffrance physique nous est épargnée, si nous avons toujours assez d'argent en poche, ou possédons un compte en banque, si nous demeurons dans une maison moderne et jouissons du luxe le plus raffiné, si nous avons les moyens de nous vêtir élégamment et de passer de longues vacances au bord de la mer, alors nous considérons tout cela comme des bienfaits. Et l'auteur d'ajouter, mais nous sommes malheureusement dupes d'une civilisation matérialiste, et malgré notre foi chrétienne, nous croyons que le confort est synonyme de bienfait. Et de même, nous confondons succès et bienfait, ou encore plaisir et bienfait. Et pourtant, cette équivalence est à 100 lieues de l'enseignement fondamental de l'apôtre Paul, elle est absolument fausse. Et nous devons veiller parce que l'Église de Jésus-Christ est devenue tellement poreuse et les pressions du monde tellement fortes qu'il est très facile aujourd'hui d'adopter peu à peu les raisonnements du monde dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Et donc de voir toutes les formes de souffrance qui peuvent venir au devant de nous comme des choses hideuses qu'il faut absolument combattre. C'était là l'introduction de notre étude d'il y a 15 jours. Il est intéressant de constater que dans la première épître de Pierre, on relève dans le texte original 16 fois des termes qui appartiennent à la famille du mot souffrance, mais directement, même du mot grec, hein, des dérivés, le mot lui-même et ses dérivés, 16 fois. Ce qui est beaucoup en 5 chapitres. Mais ça devient extrêmement intéressant quand, parallèlement à ces 16 mentions de souffrance, figurent 16 fois les mots bon, bonne ou bien, qui se traduisent dans les textes par bonne conscience, bonne conduite, œuvre bonne, 16 fois, 16 fois. Comme si l'apôtre Pierre voulait dire, mais vous savez, le défi qui vous est lancé, et ce dont Dieu veut vous rendre capable, c'est de vivre une vie de qualité, avec une bonne conscience, une bonne conduite, des œuvres belles et bonnes, précisément dans un programme de souffrance. Ça, c'est le grand thème de cette première épître de Pierre. Et vous remarquez au chapitre 1er et au verset 6, cette petite expression, donc c'est là ce qui fait votre foi, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Et j'ai relevé dans cette première épître de Pierre 6 mentions qui vont dans la même direction. 6 indications qui disent, mes amis, ça fait partie du programme de Dieu pour nos vies. Puisqu'il le faut. Chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont une scoliose du caractère, littéralement. C'est le mot grec, hein, une scoliose du caractère, ça veut tout dire, les tordus. Car c'est une grâce de supporter ou d'endurer des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, si vous endurez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est votre vocation. Il y a 5 vocations dans la première épître de Pierre. Et ça, c'est une des 5. C'est votre vocation. Vous avez été appelés même à souffrir injustement. Déjà, les souffrances légitimes sont difficiles, mais alors, Pierre met les pieds dans le plat. Hein. Vous avez été appelés à souffrir injustement, mais vous remarquez, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Alors s'il y en a un qui a souffert des souffrances injustes, c'est bien lui, l'innocent, plus élevé que les cieux, sans tache, absolument pur, pas le moindre once de culpabilité. Eh bien, puisque lui a souffert injustement, vous êtes appelés à marcher sur ses traces. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et cela continue au chapitre 3 et au verset 17. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si telle est la volonté de Dieu, sous-entend donc qu'il y a une souffrance là qui est pleinement dans la volonté de Dieu, même souffrance injuste. Chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, dans l'incarnation, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et ici, le terme utilisé, qui d'ailleurs se francise, qui a donné les hoplites dans la langue française, c'est l'histoire simplement d'un soldat qui est en train de revêtir une armure. Soyez comme un soldat qui est en train de revêtir son armure. Il faut que vous armiez votre intelligence, votre mentalité, de cette idée-là. Armez-vous de la même pensée. Si nous allons encore plus loin, chapitre 4, verset 12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » C'est un jeu de mots. Ne trouvez pas étrange. Et puis, pour terminer au chapitre 4, encore verset 19, « Ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, voyez, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » 6 affirmations en 5 chapitres. Cette manière tellement forte que Dieu a d'enfoncer le clou pour que nous soyons vraiment convaincus que la souffrance n'est pas une sorte de corps étranger qu'il faut à tout prix expulser, mais qu'elle est bien inscrite dans le programme de la vie du disciple de Jésus-Christ. Avec toutefois, et nous l'avons fait remarquer au passage, dans nos lectures, une restriction. Et une restriction qui n'est pas sans importance. L'apôtre Pierre dit, mais attention, attention, il ne faut pas qu'il y en ait parmi vous qui commencent à abuser de ce que je suis en train de dire, et qui extrapolent, qui poussent la vérité à l'extrême, et qui se disent, bon, ben c'est bien, j'ai volé mon patron la semaine dernière, si je souffre, gloire à Dieu, alléluia. Bon, j'ai déjà entendu ça. J'ai entendu une fois un témoignage un dimanche matin, pas ici, mais dans une église, qui revenait à ça. D'une personne qui aurait dû s'humilier dans l'église au lieu de donner son témoignage à cause des souffrances qu'elle connaissait, tout simplement parce que les souffrances qu'elle connaissait étaient directement liées à une bêtise qu'elle avait faite. Alors on ne dit pas « Seigneur, je te bénis pour cette souffrance ». On règle le problème d'abord. Et après, une fois que le problème est réglé devant Dieu, on sait que Dieu va utiliser la souffrance d'un cœur repentant et qu'il va, comme nous le verrons, par une métamorphose absolument, une alchimie absolument incompréhensible qui est liée à sa grâce, à sa générosité, à son amour insondable, il va changer le mal en bien, n'est-ce pas ? Le mal va rester mal, mais Dieu va l'utiliser pour le bien de son enfant. Et tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ après avoir parfois vécu des situations dramatiques savent ce que cela peut vouloir dire, la manière dont Dieu fait fructifier parfois les conséquences même de notre péché, elles sont là. Et d'un autre côté, elles font mal. Mais Dieu va les utiliser, à la fois pour notre mûrissement personnel, et aussi pour que nous puissions nous identifier à d'autres personnes, pour que nous soyons rendus capables d'aller vers d'autres personnes qui connaissent ce que nous avons connu. Parce que nous aurons plus de possibilités pour leur communiquer un message qu'elles comprendront mieux, parce qu'elles se diront, oh oui, lui est passé par là, il sait ce que c'est. Alors ceci est dit à deux reprises, dans le chapitre 2, verset 20, nous l'avons vu, mais c'est tellement clair, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Ne vous vantez pas de toutes vos souffrances. Humiliez-vous de certaines de vos souffrances, dira l'apôtre Pierre. Humiliez-vous. Et ceci revient au chapitre 4 et au verset 18, non, un peu plus tôt même, verset 15. « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Et nous devrons avoir continuellement présent dans notre esprit, à l'arrière-plan, ces deux passages. «
pour toutes les affirmations que nous allons développer.
En disant que pour les fautes dans nos vies à chacun, nous avons tous, en tant que disciples de Jésus-Christ, commis des fautes qui ont engendré des souffrances. Et nous savons que la seule voie royale qui permet à notre Dieu d'exploiter ces conséquences du péché pour que nos souffrances deviennent fécondes en quelque sorte, cette voie royale, c'est une porte royale qui s'appelle la porte de la repentance, de l'humiliation. Je dois d'abord plaider coupable. Et quand je plaide coupable, ça veut dire aussi que je dis au Seigneur, « Seigneur, j'accepte les conséquences de mon péché. » La meilleure preuve qu'on a de l'authenticité, de la repentance, c'est-à-dire du changement complet de mentalité de quelqu'un dans son évaluation de ce qu'il a fait, c'est quand il est capable de dire « Je reconnais que je suis entièrement coupable, je reconnais que je n'ai aucune circonstance atténuante à tes yeux, j'ai péché contre toi et j'accepte les conséquences de mon péché. Je plaide coupable sur toute la ligne. » Alors, à partir de là, le Seigneur, dans sa grâce, va porter avec nous ses conséquences et va les gérer de manière glorieuse. Donc, redisons-le, la souffrance est normalement inscrite au programme de la vie avec Christ. Ce n'est pas superflu, ce n'est pas un luxe pour une élite. C'est totalement normal. Quelqu'un a dit cette juste réflexion, Dieu nous a promis un débarquement sûr, il ne nous a pas promis une calme traversée. Alors Dieu voudrait que, à partir de là, nous ayons un juste regard sur la souffrance. Que nous refusions donc de voir en elle uniquement une ennemie. Un homme de Dieu qui a écrit un livre que je vous recommanderai certainement demain, dit dans ce livre « Combien de bénédictions avais-je dénigrées parce qu'elles ressemblaient à des malédictions ? Combien de rois avais-je débouté devant la porte parce qu'ils avaient revêtu les guenilles d'un mendiant ? » Faisons donc attention à notre étiquetage de nos circonstances. Soyons sûrs que nous mettons les justes mots sur nos expériences. Sont-elles bénédictions ou sont-elles malédictions ? Donnons au Saint-Esprit la liberté de transformer nos difficultés en perles précieuses. On parle énormément de la pollution à cause de la marée noire et des huîtres et il y a tout un doute qui plane sur ces huîtres, mais je pense aux huîtres perlières et à ce mécanisme ingénieux qui fait partie de l'ingéniosité divine, n'est-ce pas ? Et qui fait que lorsqu'un grain de sable réussit à pénétrer dans une huître, au lieu de se battre pour essayer à tout prix de l'expulser, risquant d'ailleurs d'abîmer tous ces tissus fragiles, sensitifs, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle sécrète un fluide extraordinaire, une matière, le nacre, qui va envelopper de couches successives ce grain de poussière ou ce grain de sable irritant qui pourrait la mettre à mort. Et ça se traduit un jour par une magnifique perle qui fait le bonheur de tant de gens sur la terre. C'est à cela que vous et moi nous sommes appelés. J'ai appris il y a quelque temps quelque chose de très intéressant concernant les flocons de neige que les scientifiques appellent cristaux. Certains écrivent, l'auteur scintille comme des diadèmes de diamants, d'autres ressemblent à de fins napperons en dentelle. Bien que chaque flocon soit différent d'un autre, ils se ressemblent d'une manière étrange, chacun d'entre eux a 6 pointes. Ils sont constitués de molécules d'hydrogène et d'oxygène et tous les flocons sont symétriques. Et il est intéressant, écrit l'auteur, de noter que les flocons existent parce qu'au centre de chacun d'eux, il y a une petite particule de matière étrangère. La vapeur d'eau qui se transforme en flocons s'accumule toujours autour d'une particule de poussière flottant dans l'atmosphère. La minuscule particule peut être aussi petite qu'un centième de millième de millimètre. Toutefois, sans elle, pas de flocon. Il y aurait presque de quoi dire, mais ne le faisons pas trop vite, béni soit la pollution, n'est-ce pas ? Et il y a dans notre vie, de la même manière, de ces poussières qui peuvent, en quelque sorte, se métamorphoser en cristaux absolument scintillants. C'est le grand missionnaire français en Afrique, il y en a eu peu, François Coillard, qui a écrit ceci, « Les épreuves, quelle qu'en soit du reste la nature, sont l'engrais de la vie spirituelle. » Et je le redis ce soir dans cette introduction. La présence et le soutien du Seigneur nous sont assurés. Même lorsque nous ne ressentons pas forcément ce soutien et cette présence du Seigneur, mais sur la base de ses promesses, j'en prends deux magnifiques diamants dans le prophète Ésaïe, après les psaumes, Ésaïe 43, magnifique passage. Ésaïe 43, verset 1er, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Quel beau texte, n'est-ce pas ? Ésaïe 54, un peu plus loin, verset 10, qui a été donc mis en musique, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, ce terme dont j'ai parlé la dernière fois, mon amour constant, mon amour fidèle, mon amour loyal, mon amour inlassable ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Quelle merveilleuse promesse. J'ai relevé dans un livre remarquable sur la connaissance de Dieu ce passage, la certitude que Dieu est toujours près de nous, présent dans toutes les parties de son monde, plus proche de nous que nos propres pensées, devrait nous maintenir la plupart du temps dans un état de bonheur moral élevé. Mais pas en permanence. Il ne serait pas honnête de promettre à chaque croyant la fête perpétuelle et pas réaliste de s'y attendre. Comme un enfant peut pleurer de douleur même en étant à l'abri dans les bras de sa mère. De même, un chrétien peut parfois expérimenter la souffrance, même dans la présence consciente de Dieu. Bien que toujours joyeux, Paul admit qu'il était parfois triste. Et pour notre bien, Christ passa par les sanglots et les larmes, bien qu'il n'ait jamais quitté le sein du Père. Mais tout finira bien. Dans un monde semblable, les larmes produisent leurs effets thérapeutiques. Le baume de la guérison distillé dans le vêtement de sa présence enveloppante guérit nos maladies avant qu'elles deviennent fatales. L'assurance de n'être jamais seul apaise l'océan troublé de notre existence et apporte la paix à notre âme. Et puis toujours dans ces premières remarques introductives, j'aimerais rappeler que nous sommes invités à ne jamais oublier les bénédictions passées dans nos souffrances présentes. Quelqu'un a écrit très justement dans les ténèbres, ne doutez jamais de ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Nous l'avons lu dans Deutéronome chapitre 8, souviens-toi. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans le désert. Souviens-toi de la manière dont je suis intervenu. Souviens-toi de mes délivrances glorieuses. Alors que tu te demandais comment tu allais te nourrir, où tu allais trouver de l'eau à boire, quand tu voyais tes vêtements s'user sur toi, et que tu te disais en regardant partout autour de toi, mais d'où vais-je trouver la solution pour continuer à me chausser, à me vêtir, etc. Souviens-toi de mes multiples interventions dans ce grand et affreux désert, au milieu des scorpions, de ces serpents brûlants. Souviens-toi. Je me souviens. Cette grande devise de la province du Québec, visible sur toutes les plaques minéralogiques des voitures. Je me souviens. Le problème, c'est que les Québécois ne savent plus de quoi ils doivent se souvenir, généralement. Mais nous, nous savons de quoi nous devons nous souvenir. Et c'est vrai que l'ennemi a l'art d'essayer d'oblitérer, de laver, de faire une sorte de lavage du cerveau, de nous empêcher de penser à la multitude de bienfaits, de bénédictions, de délivrances que Dieu nous a accordées dans le passé, quand nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile. Il essaye de nous focaliser, n'est-ce pas, de nous hypnotiser, de nous amener à nous apitoyer sur nous-mêmes, à avoir le nez plongé jusqu'à la garde dans nos difficultés et de ne pas avoir de recul. Là, nous devons apprendre à regarder en arrière. Il y a des domaines où nous ne devons pas regarder en arrière. Mais là, nous devons regarder en arrière. En disant, Seigneur, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de savoir que tu as été fidèle hier. Que tu es intervenu hier. Et que, dans le passé, mes souffrances ont été finalement des souffrances fécondes. Tu m'en as sorti. Et parfois de manière tellement, tellement extraordinaire. Refusons donc de nous laisser hypnotisés par la souffrance que nous traversons. Parce que le danger, je l'ai dit, est grand de s'apitoyer sur soi-même. La tentation sera grande de se comparer aux autres, et particulièrement à d'autres qui semblent être moins éprouvés que nous. Vous savez que très souvent, notre tentation là n'est pas de nous comparer à ceux qui sont plus éprouvés que nous, mais ceux qui sont moins éprouvés que nous. Non, mais regardez, c'est injuste. Nous risquons aussi de nous isoler, de nous enfermer dans notre souffrance et même parfois de finir par nous y complaire. On peut rester dans des situations de souffrance alors même que toutes les circonstances ont changé. Mais tout simplement parce qu'on finit par vivre une sorte de délectation de souffrance, ce qu'on appelle la délectation morose. Pourquoi ? Parce que quand on était dans la souffrance, on était entouré. On avait des gens qui se penchaient sur notre souffrance. Et on s'est créé en quelque sorte parfois une sorte de cour de personnes qui avaient les regards sur nous. Nous devenions une sorte de nombril sur lequel se penchaient les autres. Et on voudrait tellement prolonger ceci. Ce qui fait que pendant ce temps, les circonstances ont changé. Et nous ne sommes plus en réalité vraiment dans une situation de souffrance, mais nous prolongeons notre souffrance passée parce que nous voudrions rester dans ce cocon qui a fait que les autres se sont intéressés à nous pendant longtemps. Délectation morose. Le Seigneur nous appelle à tirer au contraire tous les enseignements positifs de nos souffrances pour le présent, pour l'avenir. Comme l'a dit le philosophe Alain, apprendre à porter l'amphore de notre vie, vous voyez ce qu'est l'amphore avec ses deux anses, et ne pas toujours porter l'amphore avec l'anse gauche ou l'anse droite, mais les deux. Saisir les circonstances de notre vie à pleine main, mais avec les deux mains et les deux anses. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, j'aimerais ici peut-être simplement donner quelques illustrations intéressantes sur une manière de changer notre regard sur nos souffrances. Quelqu'un écrit ceci, il y avait une croyante dont la vie semblait remplie de déceptions et de frustrations. Pourtant, son biographe a écrit à son sujet, elle se servait des refus de Dieu pour en faire de magnifiques bouquets. Un autre exemple, des croyants vivant dans un pays oriental s'étaient fait lancer des pierres par une foule en colère. Lorsque ces mêmes croyants retournèrent à cet endroit, ils construisirent une chapelle à l'aide des pierres qu'on leur avait lancées. Quelqu'un disait, si la vie te donne des citrons, fais-en une limonade. Et un homme va chez le médecin qui lui apprend qu'il va perdre un œil, qu'il faudra remplacer par un œil de verre, ce à quoi l'homme s'empresse de répondre, « Assurez-vous de m'en poser un qui a du pétillant. » C'est-à-dire, quel regard portons-nous sur les souffrances de notre vie ? Quelle était la différence entre l'armée d'Israël en face de Goliath et David ? L'armée d'Israël, dans cette situation d'épreuve, disait « Goliath est trop grand pour nous. » David tenait le raisonnement inverse. David disait « Goliath est tellement grand qu'avec ma fronde, je ne peux pas le manquer. » Et ça, c'est notre problème. Ça, c'est notre problème. Notre regard sur la souffrance, peut-être un regard toujours négatif. J'ai souvent pris l'exemple de cet homme qui est envoyé par sa société dans une région pour la vente de chaussures, et puis il découvre que les gens marchent pieds nus. Alors il télégraphie à sa compagnie, écoutez, échec complet, les gens n'ont pas besoin de chaussures. Alors sa compagnie le rappelle et envoie quelqu'un d'autre à sa place. Et quand cet autre arrive, il envoie un message en disant « Chic, c'est fantastique ce que je vais pouvoir vendre comme chaussures, puisque les gens n'ont pas de chaussures. » Deux regards complètement opposés face aux mêmes circonstances. Il existe une affiche qui porte une rose exquise, et sous cette affiche, on peut lire « Certaines personnes se plaignent parce que les roses ont des épines, d'autres se réjouissent parce que les épines ont des roses. » Changer notre regard sur les circonstances. Sur quoi dans nos vies mettons-nous l'emphase ? J'ai une illustration tellement bienfaisante qui va dans le sens de la nécessité de continuer à être tourné vers les autres pour les aimer, pour les servir, parce qu'il n'y a pas de soutien plus fantastique dans nos propres blessures, de baume plus efficace pour nos blessures. C'est cette femme de Dieu, Ruth Paxson, qui a été missionnaire en Chine pendant toute la première partie du siècle dernier, et qui a raconté qu'un jour, une femme était montée à bord d'un train avec elle, en Finlande. Et Mademoiselle Paxson de remarquer très rapidement que le visage de cette femme était radieux. Et puis, en continuant à la regarder, elle observa qu'à la place de sa main droite, elle avait un crochet de fer. Alors la conversation s'engage, et Ruth Paxson apprend que cette femme avait été missionnaire en Inde, avait contracté une maladie pulmonaire, était revenue chez elle pour y mourir. Elle était donc rentrée dans sa Finlande natale, elle avait acheté une ferme, et finalement elle s'était mise au travail vigoureusement. Et un jour, tandis qu'elle travaillait sur la batteuse, elle se fit sectionner la main droite. Et en parlant avec Ruth Paxson, dans ce train, lui dit, lorsque ma main fut coupée, je levai immédiatement les yeux vers mon Seigneur et lui dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant que je n'ai plus de main droite? Quel travail puis-je faire? Je ne te demande pas pourquoi, mais quoi? Et Dieu se servit d'elle pour faire de sa ferme un foyer pour les chrétiens âgés, apportant ainsi une bénédiction à un certain nombre de personnes. Alors, à partir de ces remarques destinées à donner une tonalité et à fixer déjà un certain nombre de points de repère très importants dans notre réflexion, nous allons considérer la souffrance comme une école vers la maturité spirituelle. La souffrance, école vers la maturité spirituelle. Il y a dans la souffrance toute une dimension pédagogique. La souffrance est une école de formation de l'homme spirituel, du disciple adulte. Il n'y a pas de vraie croissance sans souffrance. Pas de vraie croissance sans souffrance. Et ceci se vérifie dans la nature, dans toutes sortes de processus qui existent autour de nous. J'ai amené avec moi ce livre que certains ont lu. Il s'agit de mon deuxième livre, Fidèle quoi qu'il en coûte, et qui a cette particularité d'avoir donc sur la page de couverture un magnifique diamant. Tout simplement parce que dans le livre, il est question du diamant. Alors j'ai appris certaines choses au sujet du diamant qui sont intéressantes. Tout d'abord, comment faire la différence entre un vrai et un faux diamant. Je n'ai pas de diamant, nous n'avons pas de diamant à la maison, donc je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais c'est un bijoutier qui a répondu à cette question et qui a dit ceci: un moyen sûr de faire la différence entre un faux et un vrai diamant, c'est de plonger la pierre dans l'eau. La différence saute aux yeux, surtout si vous mettez le faux et le vrai. Le faux diamant ne brille pas dans l'eau. Le vrai diamant scintille, même quand il est dans l'eau. Il y a d'autres moyens. J'ai lu récemment dans un livre intéressant, mais sur un autre thème, qu'on peut aussi aujourd'hui le repérer grâce au rayon X, parce que le diamant a ceci de particulier, c'est qu'il devient fluorescent grâce au rayon X. Donc il y a des points de repère, mais vous remarquez que ce soit le rayon X ou que ce soit l'eau, ça nous fait penser à un processus de souffrance. Et je dirais simplement que les circonstances difficiles sont tout d'abord des révélateurs de l'authenticité de notre foi. elles sont de véritables radiographies du cœur. L'épreuve est une preuve d'authenticité. On peut savoir que quelqu'un est véritablement disciple de Jésus-Christ en voyant comment il va réagir dans les situations de souffrance. Il m'est souvent arrivé de dire, quand quelqu'un prenait une décision pour Christ, laissons faire le temps. Tôt ou tard, il va y avoir l'épreuve. Et l'épreuve va être révélatrice. Et même dans certaines situations où il le fallait, il m'est arrivé, notamment avec un conseil d'ancien, de dire, écoute Seigneur, nous avons besoin dans cette situation de voir clair. Pour ne pas être mené en barque, mené par le bout du nez par cette personne, à cause de tout ce qu'elle prétend, de tout ce qu'elle désire, etc. Seigneur, tu peux permettre qu'il y ait dans sa vie ce test qui pour nous va être déterminant. C'est d'ailleurs ce qui est dans un des terrains de la fameuse parabole du semeur, n'est-ce pas ? Il y a celui qui accepte, qui reçoit avec joie, au début ça va très vite, et puis dès que le soleil frappe, dès que, par exemple, l'épreuve arrive, alors on se rend compte que c'est tout à fait superficiel, et qu'en fait sa décision, c'était une décision d'intérêt. Le christianisme l'intéressait au même titre qu'une assurance tout risque, pourvu que ça m'arrange. Mais si jamais ça tourne mal, je laisserai ce christianisme-là de côté. N'est-ce pas ? Donc, souvenons-nous que les circonstances difficiles ou l'épreuve sont les preuves de l'authenticité de notre vie avec Jésus-Christ. Et puis maintenant, il y a un deuxième aspect très important concernant le diamant. C'est sa définition. Qu'est-ce que c'est qu'un diamant ? Alors, il y a diverses définitions possibles, mais j'ai retenu celle-ci, le diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Et c'est vrai. C'est un morceau de charbon qui a subi de terrifiantes pressions. C'est ça un diamant. Et en fait, c'est ce que Dieu veut faire de ma vie. Dieu voudrait que ma vie devienne progressivement comme un diamant, qui un jour puisse être placé dans la gloire céleste, sur la couronne de Jésus-Christ. Une vie qui ressemble à un diamant. Et ce sont les circonstances difficiles qui vont être les outils privilégiés dont Dieu va se servir pour façonner le diamant de ma vie chrétienne. Et si ce diamant, c'est le Christ lui-même, Dieu se sert des circonstances difficiles pour façonner en moi, pour sculpter en moi ce diamant de Jésus-Christ, puisque j'ai été régénéré, je suis sauvé pour être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Et pour que cette transformation à la ressemblance de Jésus-Christ puisse s'opérer, le divin sculpteur doit utiliser certains outils, certaines approches, certaines techniques douloureuses, si nous voulons que la personne de Jésus-Christ soit façonnée dans notre vie à chacun. Alors, pour simplement, en terminant ce soir, introduire la réflexion de l'ensemble de notre journée de demain. Nous devons ce soir répondre à une question préliminaire absolument fondamentale. Quelle est la place de Dieu et quelle est la place de Satan dans la souffrance ? Quelle est la place de Dieu et quelle est la place de Satan dans la souffrance ? quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Jésus-Christ sur sa route. Dans toutes les circonstances difficiles, quelles qu'elles soient. Bien entendu, je ne parle pas de celles qui sont directement liées à une circonstance où nous sommes coupables et que nous avons besoin d'abord de régler avec le Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réponse à cette question extrêmement importante, la réponse se trouve dans un petit mot. Un petit mot grec, ne m'en veuillez pas, c'est un mot grec, je n'en peux rien, c'est comme ça, mais vous allez voir pourquoi. C'est un petit mot grec qui a cette particularité de pouvoir être traduit de deux manières. En fonction du contexte. Ce petit mot grec peut être traduit par le mot « épreuve », mais il peut être aussi traduit par le mot « tentation ». C'est le même mot. Et nous allons peut-être simplement prendre une pièce de monnaie. J'ai là une jolie pièce de 5 francs, la pièce actuelle même. Elle est très jolie avec son pile et face, n'est-ce pas, ses deux côtés. Et nous allons ce soir appeler cette pièce, non pas pièce de monnaie, nous allons l'appeler souffrance. Ça, c'est la souffrance. La souffrance sous toutes ses formes, que ce soit dans le domaine de la maladie, toutes les circonstances difficiles que nous pouvons connaître, y compris celles qui englobent la persécution que nous évoquions tout à fait au début de notre réflexion. Souffrance. Nous venons de dire qu'il y a un mot grec qui peut se traduire par épreuve, d'un côté, ou tentation. Et vous êtes d'accord avec moi que dès que l'on parle d'épreuve ou de tentation, on est dans le programme de la souffrance. Pensez à la tentation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Quelle souffrance! Épreuve, tentation, un seul mot, ce mot est là. Équivalent à souffrance. Alors, dans l'épître de Jacques, si vous voulez venir à l'épître de Jacques, c'est important ceci, parce que nous avons lu les versets 2 à 4, que nous allons relire maintenant. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Le voilà notre mot, grec. Ici, dans le contexte, il est rendu par l'expression « épreuve ». Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que le test, ce n'est pas le même mot en grec, la mise à l'épreuve, l'examen de passage de votre foi produit la persévérance, etc. Si vous allez maintenant au verset 12 du même chapitre, au verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment », c'est un seul mot qui endure, c'est le mot qui donne persévérer en français aussi, hein, qui endure, heureux l'homme qui endure la tentation. Eh bien, vous voyez, ici, nous avons exactement le même mot grec que nous avons lu au verset 2. Au verset 2, le mot grec était traduit par épreuve. Ici, il est traduit par tentation. Pour une raison de contexte que nous allons examiner dans un instant. Car après avoir été testé, mis à l'épreuve, après avoir passé l'examen de passage de la tentation ou de l'épreuve, nous allons voir, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et alors là, Jacques a un message tout à fait particulier pour les croyants dispersés auxquels il s'adresse, parce qu'il semble avoir précisément des problèmes pour savoir qui fait qui ou qui fait quoi. Qu'est-ce qui est à mettre sur le compte de Dieu? Qu'est-ce qui est à mettre sur mon compte personnel? Qu'est-ce qui est à mettre sur le compte du diable? Il y a une confusion chez eux. Alors tout de suite, Jacques précise, attention, que personne lorsqu'il est tenté, c'est toujours notre petit mot unique, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, nous ne devons jamais dire que Dieu tente. C'est très clair dans ce texte. Ne jamais mettre la tentation sur le compte de Dieu, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Premièrement donc, Dieu ne tente jamais. Et je ne dois pas commencer par mettre la tentation uniquement sur le compte du diable. C'est trop facile de dire « c'est le diable ». Vous remarquez que Satan n'apparaît pas dans le texte. Comme si Jacques voulait dire « de toute façon, nous avons tous les uns et les autres en nous une puissance à 100% de péché. Notre nature personnelle est corrompue à fond, nous avons en nous les mécanismes qui nous conduisent à pécher. » S'il y a un texte qui affirme la perdition absolue de l'homme, son incapacité absolue à s'en sortir, c'est bien celui-ci. Nous avons en nous tous les mécanismes qui nous conduisent à pécher. Mais ce qu'il y a, c'est que le diable, eh bien, il va mettre de l'huile sur le feu. Il va attiser la braise. C'est là que lui intervient. C'est là qu'il intervient dans le processus de la tentation. Il va attiser les désirs coupables, les convoitises qui sont en nous, les désirs de la chair, du moi non régénéré, de l'hippopotame moi, comme j'ai souvent dit dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous conduire dans la mort. Son but est méchant. Il vise la destruction, il vise la chute, il vise l'enfer, il vise la mort. Il veut absolument pousser l'homme au maximum à pécher. Donc la définition de la tentation, qu'est-ce que c'est ? La tentation, c'est une mise à l'épreuve. La tentation est une épreuve, mais c'est une épreuve négative. C'est l'épreuve de quelqu'un qui nous veut du mal. La tentation, c'est une épreuve par quelqu'un qui veut mettre notre force morale à l'épreuve dans le but de nous faire succomber. C'est une forme de séduction, c'est une sollicitation au mal. Il y a une dimension négative et uniquement négative dans la tentation. Elle n'est pas péché. Certains se culpabilisent quand ils sont tentés. On dit que ce n'est jamais le premier regard qui est coupable, c'est le deuxième. Le premier regard, c'est quand la tentation afflue. Ben, si je m'arrête et que je regarde et que je continue et que je me délecte, je passe de la tentation au péché, n'est-ce pas ? Maintenant, Dieu éprouve. Dieu éprouve. Dieu ne tente pas. D'ailleurs, Jacques va l'affirmer au verset 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ne vous y trompez pas. Ne mettez pas sur le compte de Dieu ce qui n'est pas à mettre sur son compte. Mais dans ces grâces excellentes de Dieu pour ses enfants se trouve l'épreuve. Et nous avons un exemple suprême dans la Bible, et nous aurions pu passer tout un week-end à examiner le problème de la souffrance à partir de Genèse 22, le sommet de l'épreuve dans la foi d'Abraham. Lorsqu'il est dit dans Genèse 22, verset 1er, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Il n'est pas dit « Dieu tenta Abraham ». Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et donc, quand Dieu éprouve, il me met à l'épreuve pour m'amener à un choix qu'il désire positif. Il me met à l'épreuve parce qu'il veut me faire du bien, parce qu'il veut construire, il veut purifier, il veut bénir. Oh, il y a des situations tout à fait exceptionnelles. que j'appelle les irruptions du jugement dans le temps de la grâce. Ces situations où Dieu, aujourd'hui, montre ce qui se passera de l'autre côté lors de certains règlements de compte. C'est Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, irruption du jugement dans le temps de la grâce. Mais là encore même, si ce n'est pas directement positif pour Ananias et Saphira, puisqu'ils ont été foudroyés, c'était dans un but positif pour l'Église, parce qu'il fallait qu'un membre terriblement gangréné soit coupé avant que l'Église elle-même ne parte en charpie et en déroute, n'est-ce pas? Donc il y a ici et là dans les Écritures de ces irruptions souveraines du temps du jugement de Dieu dans le temps de la grâce. C'est l'incestueux de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 5, n'est-ce pas? Où l'apôtre Paul prononce un jugement extrêmement sévère, il faut qu'il soit excommunié, qu'il soit livré même à la puissance des ténèbres pour que peut-être dans ce dernier effort il puisse revenir au Seigneur. Alors il y a comme ça quelques exemples. Mais le but principal de Dieu dans l'épreuve, c'est de construire. Dieu vise le ciel parce qu'il nous aime. Alors vous comprenez peut-être mieux ce soir pourquoi nous avons un seul mot avec ces deux facettes. Parce que la souffrance a toujours dans nos vies une dimension d'épreuve et une dimension de tentation. Ce sont deux épreuves. L'une négative, l'autre positive. Chaque fois que je suis dans une circonstance difficile, je suis devant un choix. Ou bien c'est le Seigneur qui va triompher parce que je vais considérer ma situation difficile comme une épreuve, et je vais vouloir grandir dans cette situation, ou bien je vais tomber dans la tentation et le diable va en profiter pour faire une œuvre de destruction. Un seul mot, deux directions. Une direction céleste, une direction diabolique. Chaque épreuve a sa dimension de tentation. Satan cherche à s'en emparer, c'est le pollueur. Et chaque tentation a sa dimension d'épreuve. Dieu veut nous voir triompher, veut nous faire du bien, et il va faire tout pour nous accorder le maximum de son soutien. Et si je vous ai dit ceci ce soir, dans cette explication très importante, à cause de ce que nous allons voir demain, c'est pour en arriver à répondre à cette question, mais cette pièce, je l'ai sortie de mon porte-monnaie. Elle est ma possession. Mais la pièce, souffrance avec ses deux dimensions, épreuve et tentation, dans quel porte-monnaie est-elle? Est-ce qu'elle est dans le porte-monnaie de Dieu ou est-ce qu'elle est dans le porte-monnaie du diable? Parce qu'elle ne peut pas être dans les deux à la fois. Et c'est là que c'est fantastique. C'est que la pièce, souffrance, avec ses deux dimensions, est dans le porte-monnaie de Dieu. C'est Dieu qui souverainement nous place dans des situations d'épreuve, et c'est Dieu souverainement qui permet la tentation. Et ça veut dire qu'il va contrôler l'une comme l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre, notamment demain matin pour commencer, à travers un exemple de l'Ancien Testament, que nous allons actualiser pour notre vie d'aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de comprendre combien nous pouvons accepter des situations parfois extrêmement difficiles, de souffrances absolument incompréhensibles, mais parce que nous savons que la pièce n'est pas dans la poche du diable. La pièce est toujours dans la poche de Dieu. Et ce n'est pas une espèce de lutte du bien contre le mal, de Dieu contre Satan et de Satan contre Dieu, comme s'il y avait un petit peu deux forces équivalentes de part et d'autre. Pas du tout. Ça, ce sont des conceptions chrétiennes fausses qui existent dans le monde, dans le christianisme. La lutte de Dieu contre le diable, du diable contre Dieu, du bien contre le mal, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Dans les Écritures, nous avons affaire à un Dieu souverain. Il nous conduit dans des situations d'épreuve, il la permet, parfois même il l'envoie, et de toute manière, toutes les situations de tentation sont aussi sous son contrôle. Même si le diable est l'auteur de la tentation, parce qu'il vise notre destruction, souvenons-nous que derrière lui, il y a le Seigneur qui, au même instant, va faire tout ce qui est en son pouvoir, et qui sait si son pouvoir est immense, pour que cette tentation se transforme en épreuve triomphante pour nous, qui nous rende féconds, qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ, et qui touche le cœur de ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore ce Dieu merveilleux. Nous allons terminer ce soir avec cette explication et donc demain matin, nous prendrons un exemple dans l'Ancien Testament et nous le traduirons dans le langage de notre temps, pour nos situations de souffrance, de manière à être encouragés, quelles que soient les situations que nous sommes appelés à traverser. Nous voulons simplement prier. Et nous prions, Seigneur, en te bénissant, en te remerciant de tout notre cœur pour le message de ta parole. Nous te bénissons pour cette joie qui peut nous habiter alors même que nous sommes attristés par les afflictions que nous traversons. Nous te remercions parce que ce ne sont pas les circonstances qui doivent dominer sur nos vies, sur notre caractère, sur nos réactions, sur nos attitudes. Mais c'est ta personne. Et nous voulons apprendre à nous réjouir toujours